Sébastien Roch Nicolas dit Champfort, caractères et anecdotes, une sélection. M me disait, je me suis réduit à trouver tous mes plaisirs dans moi-même, c'est-à-dire dans le seul exercice de mon intelligence. La nature a mis dans le cerveau de l'homme une petite glande appelée cervelet, laquelle fait office d'un miroir. On se représente tant bien que mal, en petit et en grand, en gros et en détail, tous les objets de l'univers et même les produits de sa propre pensée. C'est une lanterne magique dont l'homme est propriétaire et devant laquelle se passent des scènes où il est acteur et spectateur. C'est là, proprement, l'homme. Là se borne tout son empire. Tout le reste lui est étranger. Aujourd'hui, 15 mars 1782, j'ai fait, disait Monsieur II, une bonne œuvre d'une espèce assez rare. J'ai consolé un homme honnête, plein de vertus, riche de 100 000 livres de rente, d'un très grand nom, de beaucoup d'esprit, d'une très bonne santé, etc. Et moi, je suis pauvre, obscur et malade. On sait le discours fanatique que l'évêque de Dole a tenu au roi au sujet du rappel des protestants. Il parla au nom du clergé. L'évêque de Saint-Paul lui ayant demandé pourquoi il avait parlé au nom de ses confrères sans les consulter, « J'ai consulté, dit-il, mon crucifix. » En ce cas, répliqua l'évêque de Saint-Paul, il fallait répéter exactement ce que votre crucifix vous avait répondu. C'est un fait avéré que madame, fille du roi, jouant avec une de ses bonnes, regarda à sa main et après avoir compté ses doigts, « Comment, dit l'enfant avec surprise, vous avez 5 doigts aussi comme moi ?» Et elle recompta pour s'en assurer. Le maréchal de Richelieu ayant proposé pour maîtresse à Louis XV une grande dame, j'ai oublié laquelle, le roi n'en voulut pas, disant qu'elle coûterait trop cher à renvoyer. Monsieur de Tressan avait fait, en 1738, des couplets contre Monsieur le duc de Nivernois. Il sollicita l'Académie en 1780, et alla chez Monsieur de Nivernois, qui le reçut à merveille, lui parla du succès de ses derniers ouvrages et le renvoyait comblé d'espérance. Lorsque, voyant Monsieur de Tressan prêt à remonter en voiture, il lui dit « Adieu, Monsieur le comte, je vous félicite de n'avoir pas plus de mémoire. » Le maréchal de Biron eut une maladie très dangereuse. Il voulut se confesser et dit devant plusieurs de ses amis « Ce que je dois à Dieu, ce que je dois au roi, ce que je dois à l'État, » un de ses amis l'interrompit « Tais-toi, dit-il, tu mourras insolvable. » Duclos avait l'habitude de prononcer sans cesse en pleine académie des foutres des bordels. L'abbé Durenel, qui, à cause de sa longue figure, était appelé un grand serpent sans venin, lui dit « Monsieur, sachez qu'on ne doit prononcer dans l'académie que des mots qui se trouvent dans le dictionnaire. » Monsieur de L parlait à son ami Monsieur de B, homme très respectable, et cependant très peu ménagé par le public. Il lui avouait les bruits et les faux jugements qui couraient sur son compte. Celui-ci répondit froidement « C'est bien à une bête et à un coquin comme le public actuel à juger un caractère de ma trempe. » M me disait « J'ai vu des femmes de tous les pays. » L'italienne ne croit être aimée de son amant que quand il est capable de commettre un crime pour elle. L'anglaise, une folie, et la française, une sottise. Duclos disait de je ne sais quel bas coquin qui avait fait fortune, on lui crache au visage, on le lui essuie avec le pied, et il remercie. Un homme allait depuis 30 ans passer toutes les soirées chez Madame II. Il perdit sa femme, on crut qu'il épouserait l'autre, et on l'y encourageait. Il refusa. « Je ne saurais plus, dit-il, où aller passer mes soirées. » Madame de Tencin, avec des manières douces, était une femme sans principe et capable de tout, exactement. Un jour on louait sa douceur, « Oui, dit l'abbé Trublet, si elle eût eu intérêt de vous empoisonner, elle eût choisi le poison le plus doux. » Monsieur de Breuil, qui n'admire que le mérite militaire, disait un jour, « Ce Voltaire qu'on vante tant et dont je fais peu de cas, il a pourtant fait un beau vers. Le premier qui fut roi fut un soldat heureux. » On réputait je ne sais quelle opinion de M. sur un ouvrage en lui parlant du public qui en jugeait autrement. « le public, dit-il, combien faut-il de sots pour faire un public ?» Monsieur d'Argenson disait à monsieur le comte de Sébourg, qui était l'amant de sa femme, « Il y a deux places qui vous conviendraient également, le gouvernement de la Bastille et celui des Invalides. Si je vous donne la Bastille, tout le monde dira que je vous y ai envoyé. Si je vous donne les Invalides, on croira que c'est ma femme. Il existe une médaille que monsieur le prince de Condé m'a dit avoir possédée et que je lui ai vu regretter. Cette médaille représente d'un côté Louis XIII avec les mots ordinaires Rex Francet Nav, et de l'autre le cardinal de Richelieu avec ces mots autour Nil sine concilio. M, ayant lu la lettre de saint Jérôme où il peint avec la plus grande énergie la violence de ses passions, disait « La force de ces tentations me fait plus d'envie que sa pénitence ne me fait peur. » M disait « Les femmes n'ont de bon que ce qu'elles ont de meilleur. » Madame la princesse de Marsan, maintenant si dévote, vivait autrefois avec monsieur de Bissy. Elle avait loué une petite maison rue Plumet, où elle alla tandis que monsieur de Bissy y était avec des filles. Il lui fit refuser la porte. Les fruitières de la rue de Sèvres s'assemblèrent autour de son carrosse, disant « C'est bien vilain de refuser la maison à la princesse qui paye pour y donner à souper à des filles de joie. » Un homme épris des charmes de l'état de prêtrise disait « Quand je devrais être damné, il faut que je me fasse prêtre. » Un homme était en deuil, de la tête aux pieds. Grande pleureuse, perruque noire, figure allongée, un de ses amis l'aborde tristement « Et mon Dieu, qu'est-ce donc que vous avez perdu ?»« Moi, dit-il. » « Je n'ai rien perdu, c'est que je suis veuf. » Madame de Bassompierre, vivant à la cour du roi Stanislas, était la maîtresse connue de monsieur de la Galésière, chancelier du roi de Pologne. Le roi alla un jour chez elle et prit avec elle quelques libertés qui ne réussirent pas. « Je me tais, dit Stanislas, mon chancelier vous dira le reste. » Autrefois, on tirait le gâteau des rois avant le repas. Monsieur de Fontenelle fut roi, et comme il négligeait de servir d'un excellent plat qu'il avait devant lui, on lui dit « Le roi oublie ses sujets. » À quoi il répondit « Voilà comme nous sommes, nous autres. » 15 jours avant l'attentat de Damiens, un négociant provençal passant dans une petite ville à 6 lieues de Lyon et étant à l'auberge, entendirent dans une chambre qui n'était séparée de la sienne que par une cloison, qu'un nommé Damiens devait assassiner le roi. Ce négociant venait à Paris. Il alla se présenter chez M. Berryer, ne le trouva point, lui écrivit ce qu'il avait entendu, retourna voir M. Berryer et lui dit qui il était. Il repartit pour sa province. Comme il était en route, arriva l'attentat de Damiens. M. Berryer, qui comprit que ce négociant conterait son histoire et que cette négligence le perdrait, lui, Berryer, envoie un exempt de police et des gardes sur la route de Lyon. On saisit l'homme, on le bâillonne, on le mène à Paris, on le met à la Bastille, où il est resté pendant 18 ans. Monsieur de Malesherbes, qui en délivra plusieurs prisonniers en 1775, conta cette histoire dans le premier moment de son indignation. Un jeune homme sensible et portant l'honnêteté dans l'amour était bafoué par des libertins qui se moquaient de sa tournure sentimentale. Il leur répondit avec naïveté « Est-ce ma faute à moi, si j'aime mieux les femmes que j'aime que les femmes que je n'aime pas ?» Le cardinal de Rohan, qui a été arrêté pour dette dans son ambassade de Vienne, alla en qualité de grand aumônier délivrer les prisonniers du Châtelet à l'occasion de la naissance du dauphin. Un homme voyant un grand tumulte autour de la prison en demanda la cause, on lui répondit que c'était pour monsieur le cardinal de Rohan qui ce jour-là venait au Châtelet. « Comment, dit-il naïvement, est-ce qu'il est arrêté ?» Monsieur de Roquemont, dont la femme était très galante, couchait une fois par mois dans la chambre de madame pour prévenir les mauvais propos si elle devenait grosse, et s'en allait en disant « Me voilà nette, arrive qui plante !» Monsieur de, que des chagrins amers empêchaient de reprendre sa santé, me disait « Qu'on me montre le fleuve d'oubli, et je trouverai la fontaine de jouvence. » On faisait une quête à l'Académie française. Il manquait un écu de 6 francs ou 1 louis d'or. Un des membres, connu par son avarice, fut soupçonné de n'avoir pas contribué. Il soutint qu'il avait mis. Celui qui faisait la collecte dit « Je ne l'ai pas vu, mais je le crois ». Monsieur de Fontenelle termina la discussion en disant « Je l'ai vu, moi, mais je ne le crois pas ». L'abbé Rénal, jeune et pauvre, accepta une messe à dire tous les jours pour 20 sous. Quand il fut plus riche, il la céda à l'abbé de la Porte, en retenant 8 sous dessus. Celui-ci, devenu moins gueux, la souloua à l'abbé d'Inouard, en retenant 4 sous dessus, outre la portion de l'abbé Rénal, si bien que cette pauvre messe, grevée de 2 pensions, ne valait que 8 sous à l'abbé d'Inouard. Un évêque de Saint-Brieuc, dans une oraison funèbre de Marie-Thérèse, se tira d'affaire fort simplement sur le partage de la Pologne. « La France, dit-il, n'ayant rien dit sur ce partage, je prendrai le parti de faire comme la France et de n'en rien dire non plus. » Milord Marlborough, étant à la tranchée avec un de ses amis et un de ses neveux, un coup de canon fit sauter la cervelle à cet ami et en couvrit le visage du jeune homme qui recula avec effroi. Marlborough lui dit intrépidement « Et quoi, monsieur, vous paraissez étonné ?»« Oui, dit le jeune homme en s'essuyant la figure, je le suis qu'un homme qui a autant de cervelle resta exposé gratuitement à un danger si inutile. » « Madame la duchesse du Maine, dont la santé allait mal, grondait son médecin et lui disait « Était-ce la peine de m'imposer tant de privations et de me faire vivre en mon particulier ? Mais votre Altesse a maintenant 40 personnes au château. » « Eh bien, ne savez-vous pas que 40 ou 50 personnes sont le particulier d'une princesse ?» Le duc de Chartres, apprenant l'insulte faite à Madame la duchesse de Bourbon, sa sœur, par Monsieur le comte d'Artois, dit « On est bien heureux de n'être ni père ni mari. » En note, le duc de Chartres et le duc d'Orléans guillotinés le 6 novembre 1793. Un jour que l'on ne s'entendait pas dans une dispute à l'académie, M. de Mérand dit « Messieurs, si nous ne parlions que 4 à la fois !» Le comte de Mirabeau, très laid de figure mais plein d'esprit, ayant été mis en cause pour un prétendu rapt de séduction, fut lui-même son avocat. « Messieurs, dit-il, je suis accusé de séduction. Pour toute réponse et pour toute défense, je demande que mon portrait soit mis au greffe. » Le commissaire n'entendait pas. « Bête, dit le juge, regarde donc la figure de monsieur. » M me disait « C'est faute de pouvoir placer un sentiment vrai que j'ai pris le parti de traiter l'amour comme tout le monde. Cette ressource a été mon pis-aller, comme un homme qui, voulant aller au spectacle et n'ayant pas trouvé de place à Iphigénie, s'en va aux variétés amusantes. » Madame de Brionne rompit avec le cardinal de Rohan à l'occasion du duc de Choiseul que le cardinal voulait faire renvoyer. Il y eut entre eux une scène violente que Madame de Brionne termina en menaçant de le faire jeter par la fenêtre. « Je puis bien descendre, dit-il, par où je suis monté si souvent. » Monsieur le duc de Choiseul était du jeu de Louis XV quand il fut exilé. Monsieur de Chauvelin, qui en était aussi, dit au roi qu'il ne pouvait le continuer parce que le duc en était de moitié. Le roi dit à Monsieur de Chauvelin, « Demandez-lui s'il veut continuer. » Monsieur de Chauvelin écrivit à Chanteloup, Monsieur de Choiseul accepta. Au bout du mois, le roi demanda si le partage des gains était fait. « Oui, dit Monsieur de Chauvelin, Monsieur de Choiseul gagne 3 000 louis. « Ah, j'en suis bien aise, dit le roi, mandez-le-lui bien vite. » L'amour, disait M, devrait n'être le plaisir que des âmes délicates. Quand je vois des hommes grossiers se mêler d'amour, je suis tenté de dire « De quoi vous mêlez-vous » Du jeu, de la table, de l'ambition à cette canaille ?« Ne me vantez point le caractère de N. C'est un homme dur, inébranlable, appuyé sur une philosophie froide comme une statue de bronze sur du marbre. » « Savez-vous pourquoi, me disait Monsieur II, on est plus honnête en France, dans la jeunesse et jusqu'à 30 ans, que passé cet âge ?»« C'est que ce n'est qu'après cet âge qu'on s'est détrompé, et que chez nous, il faut être enclume ou marteau, que l'on voit clairement que les maux dont gémit la nation sont irrémédiables. Jusqu'alors, on avait ressemblé au chien qui défend le dîner de son maître contre les autres chiens. Après cette époque, on fait comme le même chien, qui en prend sa part avec les autres. » Madame de B, ne pouvant, malgré son grand crédit, rien faire pour Monsieur de D, son amant, homme par trop médiocre, l'a épousé. En fait d'amant, il n'est pas de ceux qu'on montre. En fait de mari, on montre tout. « Monsieur le comte d'Orsay, fils d'un fermier général et si connu par sa manie d'être homme de qualité, se trouva avec monsieur Choiseul Gouffier chez le prévôt des marchands. Celui-ci venait chez ce magistrat pour faire diminuer sa capitation considérablement augmentée. L'autre y venait porter ses plaintes de ce qu'on avait diminué la sienne et croyait que cette diminution supposait quelque atteinte portée à ses titres de noblesse. On disait de monsieur l'abbé Arnaud qu'il ne compte jamais. Il parle beaucoup, non qu'il soit bavard, mais c'est qu'en parlant, on ne compte pas. Monsieur d'Autrep disait de monsieur de Ximénès, c'est un homme qui aime mieux la pluie que le beau temps et qui, entendant chanter le rossignol, dit « Ah, la vilaine bête !» Le tsar Pierre Ier étant à Spithead, voulut savoir ce que c'était que le châtiment de la cale qu'on inflige aux matelots. Il ne se trouva pour lors aucun coupable. Pierre dit « Qu'on prenne un de mes gens !»« Prince, lui répondit-on, vos gens sont en Angleterre et par conséquent sous la protection des lois. » Monsieur de Vaucanson s'était trouvé l'objet principal des attentions d'un prince étranger, quoique monsieur de Voltaire fût présent. Embarrassé et honteux que ce prince n'eût rien dit à Voltaire, il s'approche de ce dernier et lui dit « Le prince vient de me dire telle chose », compliment très flatteur pour Voltaire. Celui-ci vit bien que c'était une politesse de Vaucanson et lui dit « Je reconnais tout votre talent dans la manière dont vous faites parler le prince. » À l'époque de l'assassinat de Louis XV par Damiens, M. d'Argenson était en rupture ouverte avec Madame de Pompadour. Le lendemain de cette catastrophe, le roi le fit venir pour lui donner l'ordre de renvoyer Madame de Pompadour. Il se conduisit en homme consommé dans l'art des cours, sachant bien que la blessure du roi n'était pas considérable, il crut que le roi, après s'être rassuré, rappellerait Madame de Pompadour. En conséquence, il fit observer au roi qu'ayant eu le malheur de déplaire à la reine, il serait barbare de lui faire porter cet ordre par une bouche ennemie. Et il engagea le roi à donner cette commission à M. de Machaut, qui était des amis de Madame de Pompadour, et qui adoucirait cet ordre par toutes les consolations de l'amitié. Ce fut cette commission qui perdit M. de Machaut. Mais ce même homme, que cette conduite savante avait réconcilié avec Madame de Pompadour, fit une faute d'écolier, en abusant de sa victoire et la chargeant d'invectives, lorsque, revenue à lui, elle allait mettre la France à ses pieds. Lorsque Madame du Barry et le duc d'Aiguillon firent renvoyer M. Choiseul, les places que sa retraite laissait vacantes n'étaient point encore données. Le roi ne voulait point de M. d'Aiguillon pour ministre des Affaires étrangères. M. le prince de Condé portait M. de Vergennes, qu'il avait connu en Bourgogne. Madame du Barry portait le cardinal de Rohan, qui s'était attaché à elle. M. d'Aiguillon, alors son amant, voulut les écarter l'un et l'autre, et c'est ce qui fit donner l'ambassade de Suède à M. de Vergennes, alors oublié et retiré dans ses terres, et l'ambassade de Vienne au cardinal de Rohan, alors le prince Louis. Mes idées, mes principes, disait M., ne conviennent pas à tout le monde. C'est comme les poudres des loups et certaines drogues qui ont fait grand tort à des tempéraments faibles et ont été très profitables à des gens robustes. Il donnait cette raison pour se dispenser de se lier avec M. de J, jeune homme de la cour, avec qui on voulait le mettre en liaison. M. d'Argenson, apprenant qu'à la bataille de Rancou, un valet d'armée avait été blessé d'un coup de canon, derrière l'endroit où il était lui-même avec le roi, disait « Ce drôle-là ne nous fera pas l'honneur d'en mourir. Dans les malheurs de la fin du règne de Louis XIV, après la perte des batailles de Turin, d'Oudenarde, de Malplaquet, de Ramilly, d'Hochstett, les plus honnêtes gens de la cour disaient « Au moins le roi se porte bien, c'est le principal ». Quand M. le comte d'Estaing, après sa campagne de la Grenade, vint faire sa cour à la reine pour la première fois, il arriva porté sur ses béquilles et accompagné de plusieurs officiers blessés comme lui. La reine ne sut lui dire autre chose sinon « Monsieur le comte, avez-vous été content du petit Laborde ?» « Je n'ai vu dans le monde, disait M, que des dîners sans digestion, des soupers sans plaisir, des conversations sans confiance, des liaisons sans amitié et des coucheries sans amour. » Le curé de Saint-Sulpice étant allé voir Madame de Mazarin pendant sa dernière maladie pour lui faire quelques petites exhortations, elle lui dit en l'apercevant « Ah, monsieur le curé, je suis enchanté de vous voir. J'ai à vous dire que le beurre de l'enfant Jésus n'est plus à beaucoup près si bon. C'est à vous d'y mettre ordre, puisque l'enfant Jésus est une dépendance de votre Église. » Je disais à monsieur R, misanthrope plaisant, qui m'avait présenté un jeune homme de sa connaissance, « Votre ami n'a aucun usage du monde, ne sait rien de rien. »« Oui, dit-il, et il est déjà triste comme s'il savait tout. » M disait qu'un esprit sage, pénétrant, et qui verrait la société telle qu'elle est, ne trouverait partout que de l'amertume. Il faut absolument diriger sa vue vers le côté plaisant, et s'accoutumer à ne regarder l'homme que comme un pantin et la société comme la planche sur laquelle il saute. Dès lors, tout change. L'esprit des différents états, la vanité particulière à chacun d'eux, les différentes nuances dans les individus, les friponneries, etc. Tout devient divertissant et on conserve sa santé. Ce n'est qu'avec beaucoup de peine, disait M, qu'un homme de mérite se soutient dans le monde sans l'appui d'un nom, d'un rang, d'une fortune. L'homme qui a ses avantages y est au contraire, soutenu comme malgré lui-même. Il y a entre ces deux hommes la différence qu'il y a du scaphandre au nageur. M me disait « J'ai renoncé à l'amitié de deux hommes. L'un, parce qu'il ne m'a jamais parlé de lui. L'autre, parce qu'il ne m'a jamais parlé de moi. » On demandait au même pourquoi les gouverneurs de province avaient plus de faste que le roi. « Et c'est, dit-il, que les comédiens de campagne chargent plus que ceux de Paris. » M, intendant de province, homme fort ridicule, avait plusieurs personnes dans son salon tandis qu'il était dans son cabinet dont la porte était ouverte. Il prend un air affairé et, tenant des papiers à la main, il dicte gravement à son secrétaire « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui s'y présentent l'être Véron, Véron un T à la fin, salut. » Le reste est de forme, dit-il en remettant les papiers, et il passe dans la salle d'audience pour livrer au public le grand homme occupé de tant de grandes affaires. Le régent envoya demander au président Daron la démission de sa place de premier président du Parlement de Bordeaux. Celui-ci répondit qu'on ne pouvait lui ôter sa place sans lui faire son procès. Le régent ayant reçu la lettre, mit au bas « Qu'à cela ne tienne !» et la renvoya pour réponse. Le président, connaissant le prince auquel il avait affaire, envoya sa démission. Un homme de lettres menait de front un poème et une affaire d'où dépendait sa fortune. On lui demandait comment allait son poème. « Demandez-moi plutôt, dit-il, comment va mon affaire. Je ne ressemble pas mal à ce gentilhomme qui, ayant une affaire criminelle, laissait croître sa barbe, ne voulant pas, disait-il, la faire faire avant de savoir si sa tête lui appartiendrait. Avant d'être immortel, je veux savoir si je vivrai. » Monsieur de la Reynière, obligé de choisir entre la place d'administrateur des postes et celle de fermier général, après avoir possédé ces deux places dans lesquelles il avait été maintenu par le crédit des grands seigneurs qui soupaient chez lui, se plaignit à eux de l'alternative qu'on lui proposait et qui diminuait de beaucoup son revenu. Un d'eux lui dit naïvement « Eh, mon Dieu, cela ne fait pas une grande différence dans votre fortune. C'est 1 000 000 à mettre à fond perdu. Et nous n'en viendrons pas moins souper chez vous. » M, provençal, qui a des idées assez plaisantes, me disait à propos des rois et même des ministres que, la machine étant bien montée, le choix des uns et des autres était indifférent. Ce sont, disait-il, des chiens dans un tournebroche. Il suffit qu'il remue les pattes pour que tout aille bien. Que le chien soit beau, qu'il ait de l'intelligence, ou du nez, ou rien de tout cela, la broche tourne et le souper sera toujours à peu près bon. On faisait une procession avec la chasse de Sainte-Geneviève pour obtenir de la sécheresse. À peine la procession fut-elle en route qu'il commença à pleuvoir, sur quoi l'évêque de Castres dit plaisamment « La sainte se trompe, elle croit qu'on lui demande de la pluie. » Au ton qui règne depuis 10 ans dans la littérature, disait M, la célébrité littéraire me paraît une espèce de diffamation qui n'a pas encore tout à fait autant de mauvais effets que le carcan. Mais cela viendra. On venait de citer quelques traits de la gourmandise de plusieurs souverains. « Que voulez-vous, dit le bonhomme monsieur de Bréquigny, que voulez-vous que fassent ces pauvres rois? Il faut bien qu'ils mangent. » On demandait à une duchesse de Rohan à quelle époque elle comptait accoucher. « Je me flatte, dit-elle, d'avoir cet honneur dans 2 mois. » L'honneur était d'accoucher d'un Rohan. Un plaisant, ayant vu exécuter en ballet à l'opéra le fameux « Qu'il mourut » de Corneille, pria Nevers de faire danser les Maximes de La Rochefoucauld. Monsieur de Malesherbes disait à monsieur de Maurepas qu'il fallait engager le roi à aller voir la Bastille. « Il faut bien s'en garder, lui répondit monsieur de Maurepas. Il ne voudrait plus y faire mettre personne. » Pendant un siège, un porteur d'eau criait dans la ville « Assis sous la voie d'eau !» Une bombe vient et emporte un de ses seaux. « À 12 sous le seau d'eau !» s'écrie le porteur sans s'étonner. L'abbé de Molière était un homme simple et pauvre, étranger à tout, hors à ses travaux sur le système de Descartes. Il n'avait point de valet, et travaillait dans son lit faute de bois, sa culotte sur la tête par-dessus son bonnet, les deux côtés pendant à droite et à gauche. Un matin, il entend frapper à sa porte. « Qui va là ? Ouvrez !» Il tire un cordon et la porte s'ouvre. L'abbé de Molière ne regardant point, « Qui êtes-vous ? Donnez-moi de l'argent. »« De l'argent ? Oui, de l'argent. »« Ah, j'entends, vous êtes un voleur. Voleur ou non, il me faut de l'argent. » Vraiment, oui, il vous en faut. Eh bien, cherchez là-dedans. Il tend le cou et présente un des côtés de la culotte. Le voleur fouille. Eh bien, il n'y a point d'argent. Vraiment, non. Mais il y a ma clé. Eh bien, cette clé, prenez-la. Je la tiens. Allez-vous-en à ce secrétaire. Ouvrez. Le voleur met la clé à un autre tiroir. Laissez donc. Ne dérangez pas, ce sont mes papiers. Ventre bleu, finirez-vous. Ce sont mes papiers. À l'autre tiroir, vous trouverez de l'argent. Le voilà. Eh bien, prenez. Fermez donc le tiroir. Le voleur s'enfuit. Monsieur le voleur, fermez donc la porte. Morbleu, il laisse la porte ouverte. Quel chien de voleur. Il faut que je me lève par le froid qu'il fait. Maudit voleur. L'abbé saute en pied, va fermer la porte et revient se remettre à son travail. Madame de Montmorin disait à son fils, « Vous entrez dans le monde. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est d'être amoureux de toutes les femmes. » Une femme disait à M qu'elle le soupçonnait de n'avoir jamais perdu terre avec les femmes. « Jamais, lui dit-il, si ce n'est dans le ciel. » En effet, son amour s'accroissait toujours par la jouissance après avoir commencé assez tranquillement. Du temps de M. de Machaut, on présenta au roi le projet d'une cour plénière telle qu'on a voulu l'exécuter depuis. Tout fut réglé entre le roi, Madame de Pompadour et les ministres. On dicta au roi les réponses qu'il ferait au premier président. Tout fut expliqué dans un mémoire, dans lequel on disait « Ici, le roi prendra un air sévère. Ici, le front du roi s'adoucira. Ici, le roi fera tel geste, etc. » Le mémoire existe. Il faut, disait M, flatter l'intérêt ou effrayer l'amour-propre des hommes. Ce sont des singes qui ne sautent que pour des noix ou bien dans la crainte du coup de fouet. Madame de Créqui, parlant à la duchesse de Chaulnes de son mariage avec monsieur de Giac, après les suites désagréables qu'il a eues, lui dit qu'elle aurait dû les prévoir, et insista sur la distance des âges. « Madame, lui dit madame de Giac, apprenez qu'une femme de la cour n'est jamais vieille, et qu'un homme de robe est toujours vieux. » Monsieur de Saint-Julien, le père, ayant ordonné à son fils de lui donner la liste de ses dettes, celui-ci mit à la tête de son bilan 60 000 livres pour une charge de conseiller au Parlement de Bordeaux. Le père indigné crut que c'était une raillerie et lui en fit des reproches amers. Le fils soutint qu'il avait payé cette charge. « C'était, dit-il, lorsque je fis connaissance avec Madame Tillaurier. » Elle souhaitait d'avoir une charge de conseiller au Parlement de Bordeaux pour son mari, et jamais sans cela elle n'aurait eu d'amitié pour moi. J'ai payé la place. Et vous voyez, mon père, qu'il n'y a pas de quoi être en colère contre moi, et que je ne suis pas un mauvais plaisant. Le comte d'Argenson, homme d'esprit mais dépravé, et se jouant de sa propre honte, disait « Mes ennemis ont beau faire, ils ne me culbuteront pas. Il n'y a ici personne plus valet que moi. » Monsieur de Boulainvilliers, homme sans esprit, très vain, et fier d'un cordon bleu par charge, disait à un homme en mettant ce cordon pour lequel il avait acheté une place de 50 000 écus, « Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir un pareil ornement ?»« Non, dit l'autre, mais je voudrais savoir ce qu'il vous coûte. » Le marquis de Châtelus, amoureux comme à 20 ans, ayant vu sa femme occupée pendant tout un dîner d'un étranger jeune et beau, l'aborda au sortir de table et lui adressait d'humbles reproches. Le marquis de Genlis lui dit « Passez, passez, bonhomme, on vous a donné. » C'est la formule usitée envers les pauvres qui redemandent l'aumône. M, connu par son usage du monde, me disait que ce qui l'avait le plus formé, c'était d'avoir su coucher dans l'occasion avec des femmes de 40 ans et écouter des vieillards de 80. M disait que de courir après la fortune avec de l'ennui, des soins, des assiduités auprès des grands, en négligeant la culture de son esprit et de son âme, c'est pêcher au goujon avec un hameçon d'or. On sait quelle familiarité le roi de Prusse permettait à quelques-uns de ceux qui vivaient avec lui. Le général Quintus Icilius était celui qui en profitait le plus librement. Le roi de Prusse, avant la bataille de Rosbach, lui dit que s'il la perdait, il se rendrait à Venise où il vivrait en exerçant la médecine. Quintus lui répondit « Toujours assassin ». Monsieur de Buffon s'environne de flatteurs et de sots qui le louent sans pudeur. Un homme avait dîné chez lui avec l'abbé Leblanc, monsieur de Juvigny, et deux autres hommes de cette force. Le soir, il dit à souper qu'il avait vu dans le cœur de Paris quatre huîtres attachées à un rocher. On chercha longtemps le sens de cette énigme, dont il donna enfin le mot. Pendant la dernière maladie de Louis XV, qui dès les premiers jours se présenta comme mortelle, Lory, qui fut mandé avec Bordeux, employa dans le détail des conseils qu'il donnait le mot « il faut ». Le roi, choqué de ce mot, répétait tout bas et d'une voix mourante « il faut, il faut ». Voici une anecdote que j'ai ouï conter à M. de Clermont-Tonnerre sur le baron de Breteuil. Le baron, qui s'intéressait à M. de Clermont-Tonnerre, le grondait de ce qu'il ne se montrait pas assez dans le monde. « J'ai trop peu de fortune, » répondit M. de Clermont. « Il faut emprunter, vous payerez avec votre nom. Mais si je meurs, vous ne mourrez pas. Je l'espère, mais enfin, si cela arrivait. » « Eh bien, vous mourriez avec des dettes, comme tant d'autres. Je ne veux pas mourir banqueroutier. Monsieur, il faut aller dans le monde. Avec votre nom, vous devez arriver à tout. Si j'avais eu votre nom. Voyez à quoi il me sert. C'est votre faute. Moi, j'ai emprunté. Vous voyez le chemin que j'ai fait, moi qui ne suis qu'un pied plat. » Ce mot fut répété deux ou trois fois, à la grande surprise de l'auditeur, qui ne pouvait comprendre qu'on parlât ainsi de soi-même. Quelque temps avant que Louis XV fût arrangé avec Madame de Pompadour, elle courait après lui aux chasses. Le roi eut la complaisance d'envoyer à Monsieur d'Étiolles une ramure de cerf. Celui-ci la fit mettre dans sa salle à manger, avec ces mots, « Présent fait par le roi à Monsieur d'Étiolles. » Madame de Genlis vivait avec Monsieur de Sainte-Voix. Un jour qu'elle avait son mari à sa toilette, un soldat arrive et lui demande sa protection auprès de Monsieur de Sainte-Voix, son colonel, auquel il demandait un congé. Madame de Genlis se fâche contre cet impertinent, dit qu'elle ne connaît Monsieur de Sainte-Voix que comme tout le monde, en un mot refuse. Monsieur de Genlis retient le soldat et lui dit « Va demander ton congé en mon nom. Et si Sainte-Voix te le refuse, dis-lui que je lui ferai donner le sien. » M débitait souvent des maximes de Rouet en fait d'amour. Mais dans le fond, il était sensible et fait pour les passions. Aussi, quelqu'un disait-il de lui, il a fait semblant d'être malhonnête afin que les femmes ne le rebutent pas. À la bataille de Rocou ou de la Lofeld, le jeune monsieur de Tihange eut son cheval tué sous lui et lui-même fut jeté fort loin. Cependant, il n'en fut point blessé. Le maréchal de Saxe lui dit, « Petit Tihange, tu as eu une belle peur. »« Oui, monsieur le maréchal, dit celui-ci, j'ai craint que vous ne fussiez blessé. » Voltaire disait à propos de l'anti-Machiavel du roi de Prusse, « Il crache au plat pour en dégoûter les autres. » On faisait compliment à Madame Denis de la façon dont elle venait de jouer Zahir. « Il faudrait, dit-elle, être belle et jeune. « Ah, madame !» reprit le complimenteur naïvement, « vous êtes bien la preuve du contraire. » Monsieur Poissonnier, le médecin, après son retour de Russie, alla à Ferney et parla à monsieur de Voltaire de tout ce qu'il avait dit de faux et d'exagéré sur ce pays-là. Mon ami, répondit naïvement Voltaire, au lieu de s'amuser à contredire, ils m'ont donné de bonnes pelisses, et je suis très frileux. Madame de Tencin disait que les gens d'esprit faisaient beaucoup de fautes en conduite parce qu'ils ne croyaient jamais le monde assez bête, aussi bête qu'il l'est. Une femme avait un procès au Parlement de Dijon. Elle vint à Paris, sollicita M. le garde des Sceaux, 1784, de bien vouloir écrire en sa faveur un mot qui lui ferait gagner un procès très juste, le garde des Sceaux la refusa. La comtesse Talleyrand prenait intérêt à cette femme, elle en parla au garde des Sceaux, nouveau refus. Madame de Talleyrand en fit parler par la reine, nouveau refus. Madame de Talleyrand se souvint que le garde des Sceaux caressait beaucoup l'abbé de Périgord, son fils. Elle fit écrire par lui, refus très bien tourné. Cette femme désespérée résolut de faire une tentative et d'aller à Versailles. Le lendemain, elle part. L'incommodité de la voiture publique l'engage à descendre à Sèvres et à faire le reste de la route à pied. Un homme lui offre de la mener par un chemin plus agréable et qui abrège, elle accepte, et lui conte son histoire. Cet homme lui dit, vous aurez demain ce que vous demandez. Elle le regarde et reste confondue. Elle va chez le garde des Sceaux et refusée encore, veut partir. L'homme l'engage à coucher à Versailles et le lendemain matin lui apporte le papier qu'elle demandait. C'était un commis d'un commis nommé Monsieur Étienne. Le duc de la Vallière, voyant à l'opéra la petite La Course en diamant, s'approche d'elle et lui demande comment cela se fait. « C'est, dit-elle, que les diamants sont la croix de Saint-Louis de notre état. » Sur ce mot, il devint amoureux fou d'elle. Il a vécu avec elle longtemps. Elle le subjuguait par les mêmes moyens qui réussirent à Madame du Barry près de Louis XV. Elle lui ôtait son cordon bleu, le mettait à terre et lui disait « « Mets-toi à genoux là-dessus, vieille ducaille !» Un joueur fameux nommé Sablière venait d'être arrêté. Il était au désespoir et disait à Beaumarchais qui voulait l'empêcher de se tuer, « Moi, arrêté pour 200 louis, abandonné par tous mes amis, c'est moi qui les ai formés, qui leur ai appris à friponner. Sans moi que serait B, D, N, ils vivent tous. Enfin, monsieur, jugez de l'excès de mon avilissement. Pour vivre, je suis espion de police. » Un banquier anglais nommé Sayre ou Sayre fut accusé d'avoir fait une conspiration pour enlever le roi, George III, et le transporter à Philadelphie. Amené devant ses juges, il leur dit « Je sais très bien ce qu'un roi peut faire d'un banquier, mais j'ignore ce qu'un banquier peut faire d'un roi. » On disait au satirique anglais Donne « Tonnez sur les vices, mais ménagez les vicieux. Comment, dit-il, condamner les cartes et pardonner aux escrocs ?» On demandait à monsieur de Lauzun ce qu'il répondrait à sa femme, qu'il n'avait pas vue depuis 10 ans, si elle lui écrivait « Je viens de découvrir que je suis grosse ». Il réfléchit et répondit « Je lui écrirai « Je suis charmé d'apprendre que le ciel ait enfin béni notre union. Soignez votre santé, j'irai vous faire ma cour ce soir. » Madame de Hache me racontait la mort de Monsieur le duc d'Aumont. « Cela a tourné bien court, disait-elle. 2 jours auparavant, Monsieur Bouvard lui avait permis de manger. Et le jour même de sa mort, 2 heures avant la récidive de sa paralysie, il était comme à 30 ans, comme il avait été toute sa vie. Il avait demandé son perroquet, avait dit brosser ce fauteuil, voyons mes 2 broderies nouvelles, enfin, toute sa tête, ses idées, comme à l'ordinaire. M, qui, après avoir connu le monde, prit le parti de la solitude, disait pour ces raisons qu'après avoir examiné les conventions de la société dans le rapport qu'il y a de l'homme de qualité à l'homme vulgaire, il avait trouvé que c'était un marché d'imbéciles et de dupes. « J'ai ressemblé, ajoutait-il, à un grand joueur d'échecs qui se lasse de jouer avec des gens auxquels il faut donner la dame. On joue divinement, on se casse la tête et on finit par gagner un petit écu. » Un courtisan disait à la mort de Louis XIV, « Après la mort du roi, on peut tout croire. » Jean-Jacques Rousseau passe pour avoir eu Madame la Comtesse de Boufflers, et même, qu'on me passe ce terme, pour l'avoir manqué, ce qui leur donna beaucoup d'humeur l'un contre l'autre. Un jour, on disait devant eux que l'amour du genre humain éteignait l'amour de la patrie. « Pour moi, dit-elle, je sais par mon exemple et je sens que cela n'est pas vrai. Je suis très bonne française et je ne m'intéresse pas moins au bonheur de tous les peuples. »« Oui, je vous entends, dit Rousseau, vous êtes française par votre buste et cosmopolite du reste de votre personne. » La maréchale de Noailles, actuellement vivante, 1780, est une mystique, comme Madame Guillon, à l'esprit près. Sa tête s'était montée au point d'écrire à la Vierge. Sa lettre fut mise dans le tronc de l'église Saint-Roch et la réponse à cette lettre fut faite par un prêtre de cette paroisse. Ce manège dura longtemps, le prêtre fut découvert et inquiété, mais on assoupit cette affaire. Un jeune homme avait offensé le complaisant d'un ministre. Un ami témoin de la scène lui dit après le départ de l'offensé « Apprenez qu'il vaudrait mieux avoir offensé le ministre même que l'homme qui le suit dans sa garde-robe. » Une des maîtresses de monsieur le régent lui ayant parlé d'affaires dans un rendez-vous, il parut l'écouter avec attention. « Croyez-vous, lui répondit-il, que le chancelier soit une bonne jouissance ?» Monsieur II, qui avait vécu avec des princesses, me disait « Croyez-vous que Monsieur de L est Madame de S ?» Je lui répondis « Il n'en a même pas la prétention. Il se donne pour ce qu'il est, pour un libertin. » Un homme qui aime les filles par-dessus tout. Jeune homme, me répondit-il, n'en soyez pas la dupe. C'est avec cela qu'on a des reines. Monsieur de Stainville, lieutenant général, venait de faire enfermer sa femme. Monsieur de Vaubecourt, maréchal de Champ, on reprend. Monsieur de Stainville, lieutenant général, venait de faire enfermer sa femme. Monsieur de Vaubecourt, maréchal de camp, sollicitait un ordre pour faire enfermer la sienne. Il venait d'obtenir l'ordre et sortait de chez le ministre avec un air triomphant. Monsieur de Stainville, qui crut qu'il venait d'être nommé lieutenant général, lui dit devant beaucoup de monde : « Je vous félicite, vous êtes sûrement des nôtres. » L'Écluse, celui qui a été à la tête des variétés amusantes, racontait que tout jeune et sans fortune, il arriva à Lunéville, où il obtint la place de dentiste du roi Stanislas, précisément le jour où le roi perdit sa dernière dent. On assure que Madame de Montpensier, ayant été quelquefois obligée, pendant l'absence de ces dames, de se faire remettre un soulier par quelqu'un de ses pages, lui demandait s'il n'avait pas eu quelque tentation. Le page répondait que oui. La princesse, trop honnête pour profiter de cet aveu, lui donnait quelques louis pour le mettre en état d'aller chez quelques filles perdre la tentation dont elle était la cause. Monsieur de Marville disait qu'il ne pouvait y avoir d'honnête homme à la police que le lieutenant de police tout au plus. Quand le duc de Choiseul était content d'un maître de poste par lequel il avait été bien mené ou dont les enfants étaient jolis, il lui disait : « Combien paie-t-on ? Est-ce poste ou poste ennemi de votre demeure à tel endroit ? Poste, monseigneur. Eh bien, il y aura désormais poste ennemi. » La fortune du maître de poste était faite. Madame de Prie, maîtresse du régent, dirigée par son père, un traitant nommé, je crois, Pleneuf, avait fait un accaparement de blé qui avait mis le peuple au désespoir et enfin causé un soulèvement. Une compagnie de mousquetaires reçut ordre d'aller apaiser le tumulte, et leur chef, M. d'Avejean, avait dans ses instructions de tirer sur la canaille, c'est ainsi qu'on désignait le peuple en France. Cet honnête homme se fit une peine de faire feu sur ses concitoyens. Et voici comme il s'y prit pour remplir sa commission. Il fit faire tous les apprêts d'une salve de mousqueterie, et avant de dire « tirez », il s'avança vers la foule, tenant d'une main son chapeau et de l'autre l'ordre de la cour. « Messieurs, dit-il, mes ordres portent de tirer sur la canaille. Je prie tous les honnêtes gens de se retirer avant que j'ordonne de faire feu. » Tout s'enfuit et disparut. On disputait chez Madame de Luxembourg sur ce verre de l'abbé de Lille, et ces deux grands débris se consolaient entre eux. On annonce le bailli de Breteuil et Madame de la Reynière. « Le verre est bon, dit la maréchale. » M, m'ayant développé ses principes sur la société, sur le gouvernement, sa manière de voir les hommes et les choses, qui me sembla triste et affligeante, je lui en fis la remarque et j'ajoutai qu'il devait être malheureux. Il me répondit qu'en effet, il l'avait été assez longtemps, mais que ses idées n'avaient plus rien d'effrayant pour lui. « Je ressemble, continua-t-il, aux Spartiates, à qui l'on donnait pour lit des bancs épineux, dont il ne leur était permis de briser les épines qu'avec leur corps, opération après laquelle leur lit leur paraissait très supportable. Un homme de qualité se marie sans aimer sa femme. Prend une fille d'opéra, qu'il quitte en disant « c'est comme ma femme ». Prend une femme honnête, pour varier, et quitte celle-ci en disant « c'est comme une telle ». Ainsi de suite. Des jeunes gens de la cour soupaient chez M. de Conflans. On débute par une chanson libre, mais sans excès d'indécence. M. de Fronsac, sur le champ, se met à chanter des couplets abominables qui étonnèrent même la bande joyeuse. M. de Conflans interrompit le silence universel en disant « Que diable, Fronsac ! Il y a 10 bouteilles de vin de champagne entre cette chanson et la première. » En note, M. de Fronsac est le fils du maréchal de Richelieu. Madame du Défant, étant petite fille et au couvent, y prêchait l'irréligion à ses petites camarades. L'abbesse fit venir Massillon, à qui la petite exposa ses raisons. Massillon se retira en disant « Elle est charmante ». L'abbesse, qui mettait de l'importance à tout cela, demanda à l'évêque quel livre il fallait lire à cet enfant. Il réfléchit une minute et répondit « Un catéchisme de saint Saoul ». On ne put en tirer autre chose. L'abbé Baudot disait de M. Turgot que c'était un instrument d'une trempe excellente, mais qui n'avait pas de manche. Le prétendant, retiré à Rome, vieux et tourmenté de la goutte, criait dans ses accès « Pauvre roi ! Pauvre roi !» Un Français voyageur, qui allait souvent chez lui, lui dit qu'il s'étonnait de n'y pas voir d'anglais. « Je sais pourquoi, répondit-il, il s'imagine que je me ressouviens de ce qui s'est passé. Je les verrai encore avec plaisir. J'aime mes sujets, moi. » Monsieur de Barbançon, qui avait été très beau, possédait un très joli jardin que Madame la Duchesse de Lavallière alla voir. Le propriétaire, alors très vieux et très goutteux, lui dit qu'il avait été amoureux d'elle à la folie. Madame de Lavallière lui répondit « Hélas, mon Dieu! Que ne parliez-vous? Vous m'auriez eu comme les autres. » L'abbé Fraguier perdit un procès qui avait duré 20 ans. On lui faisait remarquer toutes les peines que lui avait causées un procès qu'il avait fini par perdre. « Oh, dit-il, je l'ai gagné tous les soirs pendant 20 ans. » Ce mot est très philosophique et peut s'appliquer à tout. Il explique comment on aime la coquette. Elle vous fait gagner votre procès pendant 6 mois, pour un jour où elle vous le fait perdre. Madame du Barry, étant à Lucienne, eut la fantaisie de voir le Val, maison de Monsieur de Beauvau. Elle fit demander à celui-ci si cela ne déplairait pas à Madame de Beauvau. Madame de Beauvau crut plaisant de s'y trouver et d'en faire les honneurs. On parla de ce qui s'était passé sous Louis XV. Madame du Barry se plaignit de différentes choses qui semblaient faire voir qu'on haïssait sa personne. « Point du tout, dit Madame de Beauvau, nous n'en voulions qu'à votre place. » Après cet aveu naïf, on demanda à Madame du Barry si Louis XV ne disait pas beaucoup de mal d'elle, Madame de Beauvau et de Madame de Gramont. « Oh, beaucoup. Eh bien, quel mal de moi, par exemple. De vous, Madame, que vous étiez hautaine, intrigante, que vous meniez votre mari par le nez. » Monsieur de Beauvau était présent, on se hâta de changer de conversation. Monsieur de Maurepas et Monsieur de Saint-Florentin, tous deux ministres dans le temps Madame de Pompadour, firent un jour par plaisanterie la répétition du compliment de renvoi qu'ils prévoyaient que l'un ferait un jour à l'autre. 15 jours après cette facétie, Monsieur de Maurepas entre un jour chez Monsieur de Saint-Florentin, prend un air triste et grave, et vient lui demander sa démission. Monsieur de Florentin paraissait en être la dupe lorsqu'il fut rassuré par un éclat de rire de Monsieur de Maurepas. 3 semaines après arrive le tour de celui-ci, mais sérieusement. Monsieur de Saint-Florentin entre chez lui, et, se rappelant le commencement de la harangue de Monsieur de Maurepas le jour de sa facétie, il répéta ses propres mots. Monsieur de Maurepas crut d'abord que c'était une plaisanterie, mais voyant que l'autre parlait tout de bon, « Allons, dit-il, je vois bien que vous ne me persiflez pas. Vous êtes un honnête homme, je vais vous donner ma démission. » L'abbé Maury, tâchant de faire conter à l'abbé de Beaumont, vieux et paralytique, les détails de sa jeunesse et de sa vie, l'abbé, lui dit celui-ci, « Vous me prenez mesure, » indiquant qu'il cherchait des matériaux pour son éloge à l'Académie. D'Alembert se trouva chez Voltaire avec un célèbre professeur de droit à Genève. Celui-ci, admirant l'universalité de Voltaire, dit à D'Alembert « Il n'y a qu'en droit public que je le trouve un peu faible. Et moi, dit D'Alembert, je ne le trouve un peu faible qu'en géométrie. » Madame de Maurepas avait de l'amitié pour le comte Lovendal, fils du maréchal, et celui-ci, à son retour de Saint-Domingue, bien fatigué du voyage, descendit chez elle. « Ah, vous voilà, cher comte, dit-elle, vous arrivez bien à propos, il nous manque un danseur, et vous nous êtes nécessaire. » Celui-ci n'eut que le temps de faire une courte toilette et dansa. Monsieur de Calonne, au moment où il fut renvoyé, apprit qu'on offrait sa place à Monsieur de Fourqueux, mais que celui-ci balançait à l'accepter. « Je voudrais qu'il l'a pris, dit l'ex-ministre. Il était ami de Monsieur Turgot, il entrerait dans mes plans. » « Cela est vrai, dit Dupont, lequel était fort ami de Monsieur de Fourqueux, et il s'offrit pour aller l'engager à accepter la place. » Monsieur de Calonne l'y envoie, Dupont revient une heure après criant « Victoire, victoire, nous le tenons, il accepte !» Monsieur de Calonne pensa crever de rire.